France Inter.
Bonsoir Thomas et bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, nous irons prendre l'air marin du Havre avec le départ des premiers bateaux de la Transat ex-Jacques Vabre, Transat Café l'Or, en route vers la Martinique. En politique, le gouvernement encaisse ses premières et coûteuses défaites. Les députés ont rejeté notamment le gel du barème de l'impôt. À propos de la réforme des retraites, Gérard Larcher prévient que le Sénat la rétablira si les députés votent sa suspension. Au Proche-Orient, nous verrons comment le plan de cesser le feu à Gaza remet en lumière le mouvement de l'OLP. Et nous serons en Allemagne pour la fermeture de la plus vieille boîte nuit gay de Berlin, victime notamment de la flambée des prix de l'immobilier. Le temps de demain dimanche, Céline Dacosta. Après le changement d'heure dans la nuit, les températures seront bien plus fraîches.
Oui, l'ambiance se rafraîchit encore avec dans l'après-midi une moyenne de 6 à 11 degrés du Massif central au Grand Est.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Les premiers départs de la Transat Café l'Or, ex-Jacques Vabre, la plus célèbre des courses transatlantiques, et pour cause de gros temps prévu demain, les 10 premiers bateaux de la catégorie Ocean 50 ont pris le large dès 16h30. Ce sont des bateaux très rapides mais instables. Emma Sarango, vous êtes en direct du Havre. Bonsoir.
Bonsoir.
Ciel nuageux mais pas de pluie au départ et les bateaux voguent désormais vers la Martinique.
Oui, c'est parti pour une dizaine de jours de course pour les 10 duos qui ont pris le départ cet après-midi. Comme prévu, les conditions étaient relativement calmes avec même quelques rayons de soleil ici au Havre. Mais on sent ce soir, Eric, que le vent se renforce, le ciel s'est couvert et la nuit ne va pas arranger les choses puisque selon les dernières prévisions, des rafales de 25 nœuds, 50 km/h sont attendues pour le départ. Et c'est surtout la première nuit en mer qui risque d'être agitée. Mais les bateaux sont faits pour ça, les marins sont expérimentés, rassure le directeur de course Francis Le Goff, qui exclut l'idée d'un report du départ comme ça a pu être le cas par le passé. Une flotte divisée donc ce soir entre d'une part les Ocean 50 qui sont dans la Manche et dont le parcours a été rallongé pour qu'ils arrivent tout de même en même temps que les autres, et d'autre part les trois autres catégories dans l'ordre de taille du plus petit au plus grand, les classes 40, les IMOCA et les ultimes qui sont sous nos yeux dans ce village départ qui se vide petit à petit après avoir vu défiler toute la journée des milliers de curieux. Et les skippers, eux, sont au chaud dans leurs hôtels pour se préparer à une dernière nuit dans un lit avant une dizaine de jours de mer.
Voilà, demain, effectivement, les autres bateaux prendront le départ du Havre à 14h15 et arrivée prévue en Martinique aux alentours du 5 novembre. C'était Emma Sarango en direct du Havre avec les moyens techniques de Jérémy Thuile. C'est une autre forme de course qui se joue à l'Assemblée nationale, une course contre la montre pour donner un budget à la France avant l'année prochaine, ou plutôt l'an prochain. Depuis hier, les députés débattent du volet recettes. Plusieurs amendements ont été votés depuis ce matin. La défiscalisation des heures supplémentaires réclamée par la droite républicaine. Défiscalisation aussi des pensions alimentaires, souvent perçues par les femmes. Et pour les journalistes, la niche fiscale change de barème avec un nouveau plafond abaissé à seulement 3,5 fois le SMIC. Bonsoir Alexis Morel.
Bonsoir Eric.
Les députés ont aussi écarté le gel du barème de l'impôt. Ce gel était réclamé par le gouvernement.
Oui, à peine 24 heures de débat et déjà un revers cuisant pour le gouvernement qui comptait récupérer 2 milliards d'euros rien qu'avec cette mesure. Mais si le barème de l'impôt ne suivait pas l'inflation, 200 000 foyers supplémentaires se retrouveraient imposables. Quand d'autres ménages paieraient un peu plus, une augmentation de la pression fiscale inadmissible pour le LR Laurent Wauquiez à l'origine de l'amendement de suppression.
Là, on est sur une augmentation d'impôt qui est déguisée, puisque ne pas actualiser le barème de l'impôt sur le revenu, ça s'appelle augmenter l'impôt sur le revenu qui frappe la France qui travaille et la France qui a travaillé toute sa vie. Et donc, nous voulons un signal qui soit clair. On ne fait pas mettre à nouveau à contribution toujours les mêmes. C'est l'État qui fait les efforts.
Les députés LR, RN, mais aussi certains insoumis et des macronistes ont donc opté pour la réindexation totale sur l'inflation pour toutes les tranches d'impôts, y compris les plus hautes, donc les contribuables les plus aisés, alors qu'en commission, ils avaient choisi de réindexer seulement la tranche la plus basse. C'était d'ailleurs le compromis espéré par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui, avant le vote, prévenait les députés.
Nous n'avons pas proposé de hausse massive des impôts, nous n'avons pas créé de nouveaux impôts, nous n'avons pas bougé les taux. Si vous votez l'indexation générale de toutes les tranches de l'imposition, je trouve qu'il sera difficile que nous ayons ensuite, pour les jours et les heures qui viennent, des débats nourris, sûrement enflammés, sur la justice fiscale.
Mais c'est donc raté pour l'exécutif et c'est ce soir un levier de recettes majeures qui passe à l'as, en tout cas à ce stade de la discussion.
Voilà, c'était Alexis Morel, service économique de France Inter. Vous parliez d'Amélie de Montchalin, elle sera demain l'invitée de questions politiques à midi sur France Inter. À propos de la réforme des retraites, si l'Assemblée la suspend, eh bien le Sénat entend bien la rétablir. C'est ce que dit Gérard Larcher, le président du Sénat, dans une interview au Parisien. Gérard Larcher qui juge au passage non acceptable le budget actuellement tel qu'il est présenté à l'Assemblée nationale. Quant aux socialistes, ils ont menacé de torpiller le compromis avec le bloc central pour se diriger, pourquoi pas, vers la censure si la tendance du budget n'allait pas ouvertement vers plus de taxation des plus riches. Et à la gauche de la gauche, les insoumis s'en sont pris à la stratégie du Rassemblement national opposé à la taxe Zucman. Le député insoumis Emmanuel Bompard a même fustigé l'absence ce matin dans l'hémicycle de Marine Le Pen, la présidente du groupe RN. Emmanuel Bompard.
Pourquoi Madame Le Pen, qui a été élue députée et qui est censée siéger à l'Assemblée nationale, n'est pas aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale pour faire son travail? Vous savez, juste avant de l'interruption de la séance à 13h, nous étions en train de discuter de l'impôt sur le revenu. Et dans le budget tel qu'il est proposé par Monsieur Lecornu, il y a l'idée que l'ensemble des Françaises et des Français vont devoir payer davantage d'impôts sur le revenu, que des personnes qui jusque-là ne payaient pas d'impôts sur le revenu devraient en payer demain si le budget de Monsieur Lecornu était adopté. Et ben moi, je considère que mon travail, le travail des vrais opposants, c'est d'être dans l'Assemblée nationale pour combattre ce budget, pour empêcher par exemple cette mesure d'être mise en place. Mais Madame Le Pen n'est pas là. La moitié des députés du Rassemblement national ne sont pas là. Alors peut-être que Madame Le Pen préfère aller faire des selfies, mais moi, pardon, je préfère faire mon travail de parlementaire et combattre ce budget. Les emplois fictifs, ça suffit.
Des selfies, dit Emmanuel Bompard, chez nos confrères de BFM. Effectivement, si Marine Le Pen n'était pas à l'Assemblée ce matin, c'est parce qu'elle était en compagnie de Jordan Bardella à la foire agricole de Poussey, c'est dans les Vosges, au contact du monde rural qui les a accueillis, effectivement, avec enthousiasme. Reportage de notre envoyée spéciale, Caroline Fix. Félix.
Oui, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont, comme d'habitude, sur les foires enchaînées les photos au milieu d'une foule dense. Et quand on demande à Marine Le Pen pourquoi elle n'est pas à l'Assemblée pour les débats budgétaires.
Il faut être partout et donc les députés sont à l'Assemblée nationale et moi aujourd'hui je suis ici. Mais vous êtes avec les Français.
Vous êtes député aussi.
Oui. Et aujourd'hui je suis ici. Ça vous pose un problème?
Chaque vote compte.
Oui, mais vous savez quoi? C'est les électeurs qui en décident. On a 70 jours.
Pas d'échange sur le budget avec ces militants, mais quand on pose la question au soutien à l'écart de la séance de selfie, ils sont partagés sur le sujet de la fiscalité.
Il faut arrêter d'être généreux. Généreux avec le tiers-monde, généreux avec... C'est pas aux retraités qui gagnent 1 200 euros par mois à payer. On va attaquer... Et puis pas non plus taxer les riches. Les riches amènent de l'argent, amènent des emplois. Si demain on fait peur aux riches, ils vont aller trop vite. Il faut mettre au boulot les gens, il faut arrêter de donner du riz à ça.
D'autres, au contraire, pensent qu'il faut taxer les hauts revenus.
L'idée est bonne.
Ouais, je pense qu'il les taxera un petit peu plus, puis nous taxera un peu moins.
Et oui, comme beaucoup ici, ils disent que de toute façon, il faudra juger sur pièce quand le RN arrivera au pouvoir.
Caroline Félix, à la foire agricole de Poussey dans les Vosges et sur la route qui mène à l'Elysée. Xavier Bertrand, le président LR des Hauts-de-France, s'est présenté aujourd'hui comme le candidat des classes moyennes contre les extrêmes. Xavier Bertrand l'a dit dans son fief à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène identifié à Marmagne, c'est près de Bourges. Les 800 volailles ont été abattues et l'État promet d'indemniser l'éleveur. À Feigné, dans la Creuse, une manifestation anti-loup a mobilisé 400 personnes. Éleveurs, chasseurs, élus du département, ils veulent développer l'élevage ovin sur le plateau de 1000 vaches, là où 7 loups ont été identifiés. En un mois, 10 attaques ont tué 76 brebis. Clément Lerousseau est éleveur de 800 brebis sur la commune de Pigerolles. Et depuis 8 ans qu'il est installé, il a connu déjà plusieurs attaques, Fanny Boucaud.
Ce n'est pas de gaieté de cœur que Clément Lerousseau raconte le retour du loup dans son élevage.
Donc on a été rattaqués, nous, au mois de mars, quand on a lâché nos brebis. On avait les chiens qui étaient présents et on a eu 4 bêtes de tuées sur un troupeau de 350 brebis. Bah, on a renforcé la protection comme on a pu, on a demandé nos arrêtés de tir pour pouvoir le tirer s'il revenait attaquer. Bah, il s'est redéplacé, les loups ont passé l'été en Corrèze, donc il y a eu moins d'attaques. Et là, c'est revenu là, sur le secteur depuis un mois à peu près.
Il a dû adapter son travail, mais ça n'a pas suffi.
On a une partie du troupeau qui a agnellé, qui sont avec les agneaux en bergerie, parce qu'on n'ose pas les mettre dehors pour pas être attaqués. Et l'autre moitié du troupeau, donc 400, qui sont avec les 6 chiens. Et donc là, on a re-été attaqué il y a 15 jours. Donc. Une bête, parce que ce qui s'est passé, c'est que le matin, quand je suis arrivé à 7h, bah, le loup était là. Quoi. Donc il était sur la brebis, il a fui et il a que pu prélater cette brebis qu'il n'a même pas pu consommer. Quoi.
Après toutes ces attaques, il se sent impuissant.
On a essayé de faire les choses comme on nous les a expliquées au niveau de l'administration. Avec les chiens, ça limite le nombre de brebis qui sont tuées. On fait tout ce qu'on peut. Donc là, on passe nos journées, nos nuits. Donc notre travail à côté, il ne se fait pas en fait. Si on en arrive à faire des rencontres avec la préfète, à faire des rassemblements pour être soutenu, c'est pour que les choses évoluent. On ne veut pas d'élevage hors sol sur notre secteur. Quoi. On est sur des systèmes pâturants et c'est pas en fermant les animaux toute une journée dans une bergerie qu'elles vont pâturer et entretenir le paysage.
En Creuse, une centaine de brebis ont été tuées par le loup depuis janvier, selon l'OFB, l'Office français de la biodiversité.
Un reportage de Fanny Boucaud, ici Creuse. Et je rappelle que le loup est une espèce protégée et qu'il est donc interdit de le tuer sans en avoir eu au préalable une autorisation de la préfecture via ce qu'on appelle des tirs de défense. Une femme de 33 ans est morte aujourd'hui à Mulhouse. Elle est victime de plusieurs coups de couteau. Son ancien conjoint est activement recherché.
France Inter, Éric Delvaux.
Le retour de l'OLP pour gérer l'avenir du Proche-Orient. Plusieurs mouvements palestiniens, dont le Hamas et le Fatah, se sont mis d'accord pour qu'un comité indépendant gère la future bande de Gaza après l'accord de cessez-le-feu avec Israël. D'accord également pour revitaliser l'Organisation de libération de la Palestine. Et voilà comment l'OLP est en passe de devenir le seul représentant légitime du peuple palestinien à Jérusalem. Les explications de Lucas Lazo.
Trois lettres que l'on pensait reléguées au livre d'histoire. Le cessez-le-feu à Gaza donne un nouvel élan au mouvement national palestinien divisé entre tendances rivales. L'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, avait été fondée en 1964 pour donner un cadre institutionnel à la question palestinienne et obtenir un siège au Concert des Nations. L'OLP s'est longtemps confondue avec l'aura de son plus célèbre dirigeant Yasser Arafat, grâce à qui elle obtient en 1974 le statut d'observateur aux Nations Unies. À partir des années 80, l'organisation en exil est contestée par des tendances plus radicales issues des camps de réfugiés. C'est ainsi qu'émerge le Hamas qui n'a jamais adhéré à l'OLP. Après les accords d'Oslo de 93 restés en grande partie lettre morte, l'OLP a peu à peu perdu de son influence. Chassée de Gaza par le Hamas en 2007, elle a été marginalisée par une autorité palestinienne dont le vieillissant Mahmoud Abbas concentre désormais tous les pouvoirs. Sur les ruines de Gaza, le mouvement national palestinien se cherche un nouveau cap. De nombreux Palestiniens placent leurs espoirs dans la libération de Marwan Barghouti, figure capable peut-être d'unir les factions et pourquoi pas de raviver l'OLP.
Lucas Lazo, correspondant de France Inter à Jérusalem. Les Ivoiriens votent dans le calme mais sans engouement au premier tour de l'élection présidentielle. Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, est largement favori, les deux principaux leaders d'opposition ayant été écartés. Au Mozambique, le chantier était suspendu depuis plus de 4 ans pour cause d'insurrection djihadiste. Le groupe Total Energy annonce qu'il va pouvoir reprendre son chantier d'exploitation gazière de grande ampleur. À Berlin, voilà une page qui se tourne. Le plus ancien et le plus grand club queer d'Allemagne, le Schwutz, fondé en 1977, va définitivement fermer le 1er novembre. Le Schwutz s'ajoute à la longue liste des discothèques berlinoises qui ont déjà mis la clé sous la porte, sous la pression immobilière et la baisse de fréquentation. Alors pour les oiseaux de nuit de Berlin, eh bien c'est un nouveau crève-cœur. Hélène Fromanti.
J'ai le cœur brisé ou encore je n'oublierai jamais les soirées avec vous. Voilà quelques commentaires sur Instagram après l'annonce de la fermeture du Schwutz. Parima, la trentaine, est l'une des habituées. Elle fréquente le club depuis une dizaine d'années comme cliente et aussi comme DJ.
La nouvelle ne m'a pas vraiment choquée ni surprise, mais ça m'a profondément attristée. J'ai du mal à croire que cet endroit n'existera plus. Ça laissera un vide immense, y compris au sein de la communauté queer berlinoise.
La boîte de nuit s'était déclarée en faillite en juillet juillet dernier et n'a pas réussi à remonter la pente. Parmi les causes invoquées, la baisse du pouvoir d'achat des clients.
En tant que personne fréquentant régulièrement les clubs, et ce depuis toujours, je vois une nette différence. Beaucoup moins de personnes vont en boîte de nuit. Les gens ont moins d'argent, tout coûte plus cher et de nombreux clubs ferment précisément pour cette raison.
Ces dernières années, la jeune femme a en effet vu une dizaine de discothèques fermées à Berlin, mais elle reste optimiste.
Car en même temps, il y a plein de travailleurs culturels et il y a toujours des collectifs qui organisent des raves qui, d'une manière ou d'une autre, occupent de nouveaux espaces. Donc cette scène ne mourra jamais.
Elle compte bien continuer à mixer dans les clubs survivants et elle sera évidemment présente au Schwoot ce samedi prochain lors de la toute dernière soirée. À Berlin, Hélène Fromanti, France Inter.
La musique électronique qui résonne encore pour quelques jours seulement dans le sud de Berlin. Un mot sur le prix Albert Londres qui vient d'être attribué à Elena Voloshin, journaliste à France 24. Mais le véritable prix Albert Londres, celui qui fait la gloire, on va dire, il est remis à Julie Braffman, journaliste à Libération. Elle est chroniqueuse judiciaire, ce qui est très rare d'ailleurs pour le prix Albert Londres. Et je précise que Julie Braffman sera l'invitée de Marion Lourd demain à 7h50. Dans la matinale de France Inter, le jury du prix Albert Londres était réuni cette année à Beyrouth, au Liban donc. Enfin, n'oubliez pas le changement d'heure la nuit prochaine. Pour résumer, à 3h du matin, il ne sera que 2h, cela veut dire une heure de plus, que chacun passera comme bon lui semble, à dormir ou à faire autre chose. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le ciel va bien rester changeant demain.
Oui, avec dans la matinée des averses qui seront plus fréquentes de la Normandie vers le nord-est et le centre-est. Toujours un petit peu de pluie et de neige au-dessus de 1600 mètres sur les Pyrénées, 1100 mètres sur le nord des Alpes et le massif central et même 900 mètres sur les Vosges. Pour le sud-est, le ciel sera plus lumineux avec encore un vent bien sensible et des rafales comprises entre 60 et 90 km à l'heure. Et puis dans l'après-midi, les averses seront surtout présentes entre le sud-ouest, le massif central, le Jura et les Alpes. Les éclaircies un petit peu plus nombreuses sur le nord du pays.
Et ce sera un peu plus frais demain.
Oui, on va le sentir dès le matin. 3 à 6 degrés sur le nord du pays, 5 à 10 pour la moitié sud, 8 à 12 sur le littoral ouest, jusqu'à 16 degrés près de la Méditerranée. Puis pour l'après-midi, là aussi, ça va rester bien frais, surtout entre le massif central et le Grand Est, avec 6 à 11 degrés seulement. 11 à 16 degrés pour les autres, jusqu'à 23 encore près de la Méditerranée.
Les prévisions de Céline Dacosta.